Chapitre 24. Alice n'avait pas donné suite à la suggestion de Zoé. Attirer le Grax dans son lit et lui tendre un piège. D'abord parce qu'elle n'avait pas la moindre idée de quel genre de piège on pouvait poser dans un lit, ensuite parce qu'elle n'avait pas envie de se servir de sa fille comme d'un appât. Elle avait résolu de dormir avec Zoé en se munissant du couteau dont elle n'avait pas eu le courage de se servir quelques jours plus tôt. 12. Elle avait commencé à compter les jours en appliquant scrupuleusement la procédure mise au point par Franks. Elle avait expliqué au Grax que sa fille, traumatisée par l'offensive des rôdeurs, avait besoin de sentir près d'elle la présence rassurante de sa mère. Jim s'était contenté de hocher la tête avec un sourire indéfinissable. Cela faisait maintenant 5 jours qu'il se tenait tranquille, ne se plaignant que de la qualité de la nourriture ou de la température de l'eau. Le reste du temps, il restait assis devant la baie vitrée, les yeux rivés sur la cour intérieure revêtue de son épaisse couche de glace et de cendres. Il ne tombait quasiment plus une particule, plus un flocon, du ciel obscur. Alice y décelait le présage d'une réapparition, même provisoire, du soleil, et d'un retour à l'alternance des jours et des nuits. Elle espérait également que l'accalmie favoriserait le retour de Franks. Théo disait qu'il s'était réfugié dans une maison mal éclairée, où régnait une atmosphère étrange et dont il était sur le point de repartir.
« Est-ce qu'il est en forme ?»
avait demandé Zoé. Théo n'en savait rien. Il ne le distinguait pas vraiment comme sur un écran d'ordinateur ou de télé. Parfois, il l'apercevait de très loin comme un point noir sur l'immensité grise. Parfois, il avait l'impression de voir ce qu'il voyait, d'éprouver ses essoufflements, ses fatigues, sa faim, sa soif, d'être au-dedans de lui. Parfois, il perdait le contact, pendant un temps indéterminé, comme si on avait débranché la prise qui les reliait. Et il pleurait dans son coin, jusqu'à ce que leur fil soit renoué. Une petite fille aux cheveux bruns accompagnait Franks dans son périple. Pourquoi s'encombrerait-il d'une gamine qu'il ne connaît pas? S'était étonnée Alice. Elle lui donne de la force, avait répondu Théo. Ils étaient allés à plusieurs reprises vérifier l'état du soupirail dans la cave. Ils se déplaçaient toujours à trois, équipés chacun d'un couteau, d'un tournevis pour Théo. Le ciment avait séché. Et même s'il présentait d'infimes craquelures à sa surface, les barreaux semblaient solidement scellés. Ils avaient inspecté les 2 autres soupiraux, ainsi que la porte basse qui donnait sur la douve, et que Franks et les autres avaient renforcé avec des barres métalliques posées en travers. Alice estima que le temps était venu de reboucher les fissures par lesquelles s'étaient infiltrées les cendres. Les pluies volcaniques pouvaient reprendre, et de façon plus intense, dans un proche avenir. Il fallait rendre au bâtiment leur étanchéité. Et puis les travaux leur occuperaient l'esprit. Ils explorèrent les couloirs des appartements, recensèrent les accumulations de cendres à l'aide de 2 lampes à pétrole, amenèrent un escabeau, ouvrirent les trappes, grimpèrent dans les greniers couverts de feuilles d'aluminium et de panneaux de laine de roche d'une épaisseur de 50 cm. Il leur fut relativement facile de repérer les brèches dans la toiture. Là où s'infiltraient les cendres, les poutres et la laine de roche se voilaient d'une épaisse couche grise. Ensuite, les particules se faufilaient par les interstices entre les panneaux d'isolation et les lattes du plancher et tombaient à l'étage du dessous. Les courants d'air les poussaient dans les recoins où elles s'agrégeaient. Ils déclouèrent quelques voliges pour rajuster les tuiles métalliques déplacées par les précipitations ou les bourrasques. Le froid polaire qui régnait sous les toits les contraignait à se couvrir chaudement. Les doigts étaient gourds à l'intérieur des gants épais, les bras engoncés dans 3 ou 4 couches de vêtements. Seule une douche brûlante leur permettait de se réchauffer après un séjour prolongé dans les soupentes. Le feu de Dieu réclamait une attention constante. Le vent et les cendres, délétères, corrodaient les matériaux les plus exposés et les plus fragiles. Alice résolut donc d'effectuer une inspection quotidienne et d'intervenir avant que les fissures et autres dommages n'aient eu le temps de s'amplifier. Elle découvrit ainsi une fuite à l'un des tuyaux de cuivre qui alimentait en eau la salle de bain. Franks avait prévu tout le nécessaire à plomberie dans le feu de Dieu. Le fer à souder, le masque, les baguettes, les pattes, les tuyaux de différents diamètres, les colliers, les coudes, et même un manuel pour les nuls. Alice et les enfants entreprirent de boucher la fuite. D'abord, abaisser les manettes d'alimentation et purger le circuit. L'eau s'échappait goutte à goutte d'une soudure entre le tuyau et un coude. Suivant les instructions du manuel, ils scièrent le cuivre, posèrent un nouveau coude, refirent les soudures des 2 côtés en s'assurant de leur étanchéité. La tâche leur prit davantage de temps que prévu et provoqua la colère du Grax, frustré de ne pas pouvoir se prélasser sous la douche. Chaque fois que le parasite élevait la voix, Théo tremblait de peur et mettait un long moment à s'en remettre. Puis, Alice voyait la haine poindre dans les yeux clairs de son fils. il semblait tout à coup expulsé de l'enfance et projeté dans un monde trop rude pour lui. Le Grax et le cataclysme lui confisquaient son innocence. Mais c'était le lot de tous les enfants confrontés très tôt à la brutalité de la vie. Les enfants soldats d'Afrique, les enfants travailleurs d'Inde, les enfants tueurs d'Amérique du Sud, les enfants prostitués des pays touristiques d'Extrême-Orient. Théo, comme tout cela, grandissait trop vite. Les Occidentaux avaient tenté d'éloigner de leur progéniture les spectres de la souffrance et de la mort. La souffrance et la mort s'étaient invités, proclamant qu'il ne pouvait pas y avoir de vie sans mort, ni d'évolution sans souffrance. Franks avait essayé de les préparer au mieux à la période de transition, mais la Terre tout entière s'était transformée en un champ de disgrâce où survivre était à la fois une chance inouïe et une succession d'épreuves. Ils purent rétablir l'eau. Le Grax célébra l'événement en restant une demi-heure sous une douche à 40 degrés. Le Grax, autopromu général en chef de la minuscule armée du Feu de Dieu, distribuait ses consignes. Lorsqu'il s'absentait, soit pour aller aux toilettes, soit pour fouiller la maison en quête d'un hypothétique paquet de tabac oublié par les autres familles, il ordonnait à Théo ou à Zoé de prendre sa place devant la baie vitrée et de surveiller la cour. Il lui semblait avoir aperçu des ombres au-dessus du mur d'enceinte. Alice avait vérifié. Elle entrevoyait les formes figées et légèrement plus claires du portail et des pans de mur situés à l'autre bout de la cour, mais la densité de l'obscurité l'empêchait de discerner quoi que ce soit d'autre. Elle soupçonnait donc Jim d'avoir exagéré, voire inventé le danger, pour imposer sa férule. Il avait franchi la dernière étape, régnait en tyran sur le minuscule royaume qu'il avait peu à peu conquis, et organisait les tours de garde. À en croire les regards luisants qu'il jetait régulièrement sur Zoé, il ne tarderait pas à exiger ce qu'il considérait comme son privilège et son dû. Théo avait demandé à Alice la permission de se rendre dans l'atelier du fond de la cour. Pourquoi faire ? Il s'était dandiné d'une jambe sur l'autre, la tête penchée, évitant de croiser le regard de sa mère. « M'entraîner. »«
T'entraîner ? À quoi ? » ?»«
Au tir à l'arc. » »« C'est ce que tu étais allé faire dans l'atelier quand Jim t'est tombé dessus l'autre jour ?» Théo avait acquiescé d'un timide hochement de tête. « Il fait trop froid là-bas, » avait-elle repris.
« Je resterai pas longtemps, promis. Il y a des rôdeurs dehors. » Imagine qu'ils réussissent à passer dans la cour, comme l'autre fois, et qu'ils te coincent dans l'atelier.
Pas question.
Mais maman, avec un arc, ce serait plus facile de...
Pas question. Théo avait marqué sa réprobation d'une moue boudeuse et d'un soupir bruyant. Les rôdeurs lancèrent une deuxième offensive en plein cœur de la nuit. Le cri perçant de Théo, qui avait remplacé Alice quelques minutes plus tôt, sonna le branle-bas de combat. Le Grax bondit de son lit et se rendit en trois foulées devant la baie vitrée, vêtu d'un simple t-shirt à manches longues qui tombait sur ses jambes seulement vêtu de chaussettes. Il s'était muni de sa nouvelle arme, un trident d'un mètre de long qui servait à remuer les bûches dans l'âtre et dont il avait effilé les pointes en les trempant un long moment dans les braises du poêle et en les étirant à l'aide d'un marteau et d'une pince. Alice et Zoé, armées de couteaux, les rejoignirent après avoir pris le temps de se rhabiller. Des ombres se déployaient dans la cour. 6, 7, peut-être davantage.
Nom de Dieu,
marmonna le Grax.
Il nous faudrait un flingue.
Ah, tu vois que mon arc aurait été utile, maman,
soupira Théo.
Et tu pouvais pas le dire plus tôt que t'avais un arc,
cracha Jim.
Il est dans l'atelier et personne veut que j'y aille.
En attendant, heureusement que tu n'y es pas, toi, dans l'atelier, dit Alice.
T'aurais dû le ramener ici, ton arc, putain,
siffla le Grax.
Il sert à que dalle là-bas.
Les rôdeurs se rapprochaient avec prudence. On ne distinguait pas leur visage, enfouis dans des pans de tissu. Certains brandissaient des bâtons ou des barres de fer. Ils avaient sans doute retenu de leur première offensive qu'ils avaient davantage de chances de s'introduire dans la maison par la baie vitrée du salon. Et ils avaient visiblement l'intention de la défoncer.
« Le volet !»
hurla Alice.
« Qui va aller dehors pour le descendre ?»
vociféra le Grax.
« Pas besoin, il suffit de presser l'interrupteur dans le mur. Pourquoi tu l'as pas dit l'autre jour ? Je te l'ai proposé, t'as pas voulu. »
Le Grax tapota le front de l'index.
Tu délires ? Je me demande s'il y a encore quelque chose là-dedans.
Alice se rendit près de la niche murale qui renfermait la commande électrique. L'abaissement du volet présenterait un inconvénient. Il ne pourrait plus surveiller les mouvements des assaillants.
Qu'est-ce que t'attends, putain ?
Beugla le Grax. Alice pressa l'interrupteur, en espérant que le froid et les cendres n'avaient pas grippé le mécanisme. Le volet descendit dans un grincement de fer rouillé, avec une lenteur exaspérante.
Les assaillants comprirent que les occupants de la maison tentaient de leur couper le chemin et accélérèrent l'allure.
« Là, on dirait Ludo !»
murmura Zoé. Elle désignait une silhouette nettement plus grande que les autres et dont le visage apparaissait par intermittence entre les pans de tissu noués autour de sa tête. Le volet continua de s'abaisser. L'un des assaillants parvint à coincer l'extrémité d'une barre de fer entre le sol et le panneau métallique. Le mécanisme s'arrêta dans un grincement horripilant. Utilisant la barre comme un levier, l'homme tenta ensuite de soulever le volet.
« Il faut l'en empêcher !» cria Alice. « Ou on est perdu !»«
Comment ?»
halta le Grax.
« Ouvre la baie et arrache-lui sa barre !»«
T'es dingue, il risque de... On n'a pas d'autre choix, Jim !»
Poussant un grognement, le Grax débloqua le loquet de la baie et la fit coulisser sur son rail. L'homme dans la cour donnait de puissants coups de barre pour démanteler le volet. Le froid s'engouffra avec avidité dans la pièce principale, pressé lui aussi de conquérir un espace qui lui résistait depuis des jours. Le Grax s'accroupit et s'empara de l'extrémité de la barre. D'autres assaillants tentaient de glisser à leur tour leur bâton sous le volet. Le Grax repoussa la tige de fer d'un coup sec. L'autre, surpris, perdit l'équilibre et emporta son levier dans sa chute. Le volet libéré tomba lourdement sur le sol en brisant un bout de bois. Jim se releva et referma la baie dont il verrouilla de nouveau le loquet. Une volée de coups s'abattit sur le panneau. Alice crut que les pièces métalliques articulées allaient voler en éclats, mais choisies justement pour leur robustesse, elles résistèrent à la première grêle. Zoé plaqua les paumes de ses mains sur ses oreilles. Au bout d'interminables minutes, le vacarme s'interrompit et le silence redescendit sur les lieux.
« Je croyais qu'on pouvait pas franchir ce putain de mur !»
grommela le Grax.
« Faut croire qu'ils y arrivent, » répondit Alice. « Ils se fichent apparemment de se blesser sur les tessons. »
Y a pas d'autres endroits par où ils peuvent rentrer?
La porte de l'ancienne buanderie qui donne sur la cour, répondit Alice.
Elle est solide au moins.
Elle est en métal et elle a été blindée, mais ces dingues réussiront peut-être à la défoncer.
Faudrait aller voir, dit le Grax.
Vas-y toi, t'es le plus costaud.
Moi je reste là. Vas-y toi.
Alice hocha la tête. Elle commençait à se demander si, comme la plupart des parasites, le Grax n'était pas repris par ses craintes initiales lorsque sa tranquillité était menacée.
« Viens avec moi, Zoé. »«
Je viens aussi, » dit Théo.
« D'accord.
Jim se débrouillera pour les empêcher de passer s'ils démolissent le volet. » Jim ne perçut pas l'ironie de ses paroles, ou feignit de l'ignorer, puisqu'il ne réagit pas. Le vacarme reprit au moment où Alice et ses deux enfants sortaient de la grande pièce et s'engageaient dans le couloir qui donnait sur l'ancienne buanderie, là où Théo avait croisé le Grax en revenant de l'atelier. Deux verrous de l'épaisseur d'un bras fermaient la porte blindée. Il n'y avait aucune autre issue. On avait bouché l'ancien portail de la grange transformé en appartement. Les fenêtres, conçues comme des meurtrières, étaient à la fois trop hautes et trop étroites pour autoriser le passage d'un homme. Il fallait, pour se rendre d'un endroit à l'autre du feu de Dieu, transiter par la pièce principale, le cœur et le ventre de la maison. Lorsque Franks avait montré les plans aux autres en disant justement qu'en cas d'attaque, il leur serait plus facile de ne défendre que deux issues, la baie à triple épaisseur de verre et protégée par un volet, la porte blindée de la buanderie qui servirait en temps normal d'entrée principale, ils avaient fustigé son délire paranoïaque avant de valider son projet. Ils n'avaient pas eu le courage de se lancer dans un interminable débat avec un interlocuteur qui ne lâchait jamais le morceau. De vagues murmures se glissaient entre les sifflements du vent.
« Pas la peine qu'on reste tous les trois ici, »
chuchota Alice.
« Moi, je retourne pas tout seul avec le Grax, »
fit Théo d'un air buté qui accentuait sa ressemblance avec son père.
« Moi non plus, »
ajouta Zoé. La paix extérieure, chargée de menaces, évoquait le calme précédant les tempêtes.
« On ferait peut-être mieux d'aller chercher la hache, »
suggéra Théo.
« Elle était efficace quand ils étaient coincés dans le soupirail, » dit Alice. Mais là, elle serait trop lourde.
Elle se tourna vers sa fille.
T'as vraiment reconnu Ludovic Jeanneret tout à l'heure?
Il lui ressemblait drôlement, en tout cas,
répondit Zoé.
En nettement plus maigre.
Si c'était lui, il aurait essayé de rejoindre le feu de Dieu sans rameuter tous les survivants du coin.
On sait pas ce qu'on peut devenir à...
Un premier coup donné sur la porte, puissant, assourdissant, interrompit Zoé.